Luc chapitre 22, versets 1 à 23, page 1181. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela.
Comme Matthieu l'a dit tout à l'heure, on va célébrer le repas du Seigneur. Et on veut, par la méditation de ce texte, réfléchir à son sens. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu « Des hommes et des dieux », un film qui revient sur des événements qui ont eu lieu dans les années 90, 96 en fait, l'enlèvement de moines de Tibérine en Algérie, et qui ont été donc enlevés et ont été mis à mort par la suite. Une des scènes frappantes du film, c'est justement le dernier repas qu'ils prennent au couvent avant d'être enlevés. Frère Luc, Michael Lonsdale, qui joue ce rôle, entre dans la pièce et il va poser 2 bouteilles de vin sur la table. Les moines sont réunis, il va aussi mettre de la musique, le lac des cygnes de Tchaïkovski. Et là, on ne les entend pas parler, c'est sur leur visage qu'on lit toutes les émotions. Il y a d'abord de la joie à prendre ce repas ensemble, la joie de l'amitié. Mais au fur et à mesure que la musique avance, on voit leur visage s'attrister, s'assombrir. C'est la gravité, la pensée de la mort qui prend le dessus. Il y a dans ce film et aussi dans les faits réels le thème du sacrifice. Ils ont refusé de partir alors que leur vie était menacée et ils vont sacrifier leur vie en restant dans ce monastère. Ici, dans le dernier repas que Jésus prend, on peut aussi voir cette joie qu'il a à passer ce temps avec ses disciples. On voit aussi la gravité du moment. Il va leur parler de sa mort prochaine. Il va bien entendu être question de sacrifice, de son sacrifice. Mais notez qu'à la différence de ce repas qui se fait avec un fond musical et où on ne parle pas, Jésus ici, par toutes les paroles qu'il prononce, veut qu'on s'assure d'avoir compris son message, pourquoi il meurt. On va prendre ce passage en deux temps. On va parler des préparatifs de la Pâque et ensuite de l'accomplissement de la Pâque. Les préparatifs de la Pâque, l'accomplissement de la Pâque. Et j'espère que ce sera l'occasion pour nous de nous préparer, comme les disciples avaient besoin d'être préparés, à prendre ce repas par la suite, que nous soyons préparés à cela. Alors, il est question des préparatifs de la Pâque, différents endroits dans ce passage. Qu'est-ce qu'elle commémorait? On l'a déjà vu un peu dans le texte qu'on a lu. On entend le souvenir de cette libération qui a eu lieu au temps où le peuple était esclave en Égypte, au temps de Moïse. Ils ont pris un dernier repas avant de partir, un repas qui était fort puisqu'il s'agissait de sacrifier un agneau pour chaque foyer, pour chaque maisonnée. Un agneau qui devait être sacrifié, sinon, et on l'a vu dans le texte d'Exode 13, le premier-né de chaque famille allait mourir. Pessa, la Pâque en français, exprime le fait que Dieu est passé au-dessus. Et c'est ce que Dieu a fait lorsque le jugement n'est pas tombé sur ces maisons qui étaient protégées par le sang. Et égyptiennes qui ont vu leur premier-né mourir. Cette fête, elle célébrait donc à la fois la libération de l'esclavage, mais aussi la rédemption qui était opérée. Ce n'est pas seulement les Égyptiens qui avaient besoin d'être protégés du jugement, qui ont vécu ce jugement, mais c'est les Hébreux qui auraient vécu ce jugement aussi, et ils avaient besoin d'en être protégés. C'est donc le salut de Dieu, la préservation des premiers-nés, la rédemption de tout un peuple qui se joue avec cette première Pâque. Et en approchant de cette fête, Luc dévoile un double préparatif. Ici, on voit, il y a à la fois les préparatifs des religieux, des chefs religieux, et il y a les préparatifs de Jésus. On doit entendre le choc des premiers préparatifs mentionnés. Verset 2, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. On est sur le point de vivre une des plus grandes fêtes, sinon la plus grande fête dans l'histoire du peuple, dans le vécu du peuple. Et là, ils sont en train de préparer un complot contre Jésus, à vouloir le faire mourir. Et le temps du verbe montre que ça fait un moment déjà qu'ils cherchent un moment opportun. Et ce qui les a retenus jusqu'ici, Luc le mentionne, c'est les réactions du peuple. Ils ont peur que la foule se retourne contre eux. Jésus est une figure importante, populaire pour beaucoup. Mais la donne change lorsque Judas se propose pour être le moyen par lequel Jésus va être livré, trahi. Avec Judas, ils ont non seulement quelqu'un de l'intérieur qui va permettre à ceux qui doivent l'arrêter de l'identifier, mais aussi quelqu'un qui va connaître ses allées et venues, qui va leur permettre d'aller à un endroit de nuit pour l'arrêter, pour le prendre. Mais c'est aussi quelqu'un qui va porter en quelque sorte le poids de la trahison. Judas, c'est cet instrument-là qui va servir pour le complot. Mais on aurait tort de résumer tout à Judas, comme d'une certaine façon les prêtres semblent vouloir le faire, mettre la responsabilité sur lui. Luc veut nous montrer qu'il y a plusieurs dimensions au mal qui est sur le point de se déchaîner contre Jésus. Il y a, c'est vrai, les responsables religieux eux-mêmes qui, communautairement, veulent faire mourir Jésus. Il y a Judas qui va le trahir pour de l'argent. Et Luc mentionne Satan comme l'influence de Judas. Autrement dit, il y a des dimensions cosmiques dans ce complot. Dans cette initiative. Ce n'est pas l'initiative d'un homme, ce n'est même pas l'initiative d'un simple groupe. Il y a Satan lui-même, un monde spirituel qui est à l'œuvre, des dimensions individuelles, communautaires, spirituelles, par jalousie, pour de l'argent, tout simplement influencé par Satan. Les êtres humains peuvent être capables de préparer le pire complot tout en voulant garder les apparences de justice. Imaginez, on est en train de préparer la Pâque, ce sont des chefs religieux. Il y a toute cette préparation qui se fait, et c'est dans ce contexte-là qu'ils cherchent à faire mourir Jésus. Remarquez qu'ils veulent faire en dehors du regard de la foule, et ils sont tout heureux de le faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est le mal dont on est capable, les ficelles du mal. Dans une entreprise, on peut vouloir évincer quelqu'un sans raison valable, en mettant la responsabilité sur d'autres pour la décision. On peut se concerter, mais concerter pour pouvoir mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Dans un mariage, un époux peut vivre une infidélité et prétexter que c'est parce que son épouse manquait de douceur et d'affection pour lui. C'est pour cela qu'il a été en quelque sorte jeté dans les bras d'une autre femme. On peut faire le mal en ayant l'apparence extérieure ou en voulant garder l'apparence d'un acte justifié, en mettant la culpabilité sur quelqu'un d'autre. C'est à ça que le mal ressemble, dans toute son horreur. L'apparence d'un acte justifié, mettant la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas les seuls préparatifs qu'on voit ici. Luc nous parle d'un double préparatif. Si les responsables religieux ont de la joie, imaginez, de la joie à envisager ce scénario, ce complot, on va parler d'une autre joie, celle que Jésus a préparé cette Pâque. Ce sont ses préparatifs à lui. Malgré le mal, de nouveau, qui est sur le point de se déchaîner contre lui, Jésus montre que c'est bien son plan, son projet qui s'accomplit. Dans un complot, on est justement habitué à l'effet de surprise, à la concertation qui doit permettre de contrôler tous les événements pour que la victime soit prise au piège. Mais Jésus nous montre que c'est lui qui est le maître de ces circonstances. Dans les préparatifs de Jésus pour la Pâque, on entend dans la question de Pierre et de Jean, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Pour imaginer une réponse, « Ah oui, c'est juste la Pâque. Qu'est-ce qu'on va faire pour la Pâque ? Où est-ce qu'on va la préparer, cette Pâque ?» Ce n'est pas du tout cette réponse-là qu'on entend de Jésus. « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Vous avez entendu toutes les précisions dans la manière de trouver cet endroit. Il y a de la précision dans tout ce que Jésus prépare. Mais si on est dans la peau des disciples, on serait en droit de se demander, c'est qui cet homme avec cette cruche? C'est qui ce propriétaire? On serait en droit de se demander, est-ce qu'on va se tromper de personne? Est-ce qu'on va tomber sur la mauvaise personne avec une cruche? Suivre plusieurs cruches à la fois? Et pourtant, ce qui va se démontrer dans les faits, c'est que Jésus était précis et c'est bien dans cette pièce aménagée que la Pâque aura lieu. Il y a bien un contraste entre les préparatifs pour la Pâque, des préparatifs qui nous disent la nature humaine dans toute son horreur, mais les préparatifs de Jésus qui montrent sa souveraineté, le fait qu'il maîtrise les événements. Et dans une situation donnée, que vous pourriez vivre, que vous vivez peut-être en ce moment. On pourrait voir dans les forces engagées, dans les complots menés, dans l'épreuve qui dure, dans les éléments qu'on ne contrôle pas, le sentiment que les choses nous échappent, que l'épreuve est trop douloureuse, trop forte. Avec ce complot qui grandit en nombre face à Jésus, est-ce qu'on va avoir confiance en un Jésus qui avance justement vers sa mort ? Est-ce qu'on a confiance en lui? C'est intéressant de voir comment dans l'ensemble de l'évangile de Luc, à tous les moments charnières, on a un grand rejet de Jésus. Sa vie n'a même pas encore commencé sur terre. Il est dans le ventre de sa mère. À l'auberge, il n'y a pas de place pour eux. Viendra ensuite le moment de commencer son ministère à Nazareth. Et là encore, on le rejette. Alors qu'il prend la route, et ça c'était le grand moment charnière chez Luc, prend la route, la décision de partir vers Jérusalem, qu'il envoie des disciples dans une ville de Samarie, pour des provisions, on le rejette. Le plus grand rejet qu'il va subir, c'est le moment où, face à toute une foule, face à des responsables religieux qui montent cette foule contre lui, alors qu'on a un choix entre un criminel, Barabbas, et Jésus, un innocent, tout le monde crie « Supprime cet individu et relâche-nous Barabbas !» Le rejet par excellence. Mais ici, quand vient le moment de célébrer la Pâque avec ses disciples, quand vient le moment pour lui de montrer l'importance qu'a ses disciples à ses yeux, que ce peuple qui est sur le point de vivre un nouveau départ, quand il s'agit pour lui de montrer que c'est lui qui sécurise leur avenir, il n'y aura pas de rejet. Ça se passera exactement comme il l'a prévu. C'est lui qui est souverain. Et vous pourriez, dans les mauvaises intentions que vous voyez autour de vous, les complots ou peut-être l'épreuve qui se déchaîne, avoir le sentiment que les choses échappent à Jésus. Et ici, face à sa propre mort, il montre qu'il est lui-même souverain sur les circonstances. Et ça devrait nous encourager. Il veut garantir cette communion avec nous, avec son peuple. On passe ensuite à l'accomplissement de la Pâque. Il se met à table et Jésus commence par dire « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et en l'écoutant, on pourrait avoir des sentiments mélangés. Il dit d'abord qu'il se réjouissait de prendre ce repas avec ses disciples, mais il dit ensuite qu'il est sur le point de souffrir. Comment est-ce qu'on peut se réjouir et parler dans la foulée de ses souffrances? Pourquoi est-ce qu'il a hâte de prendre ce repas avec ses disciples? Comme nous, certainement, il y a une joie personnelle à envisager un repas qu'on va prendre avec sa famille. Si on a des liens familiaux nourrissants et qu'on a la joie à les retrouver, ça pourrait être cette joie-là, cette anticipation-là. Ou alors avec des amis, des personnes qui nous sont proches, des amis avec qui on est heureux de passer du temps, on aura cette anticipation-là, cette joie-là, dans la perspective de vivre ce repas. Mais on peut penser à une deuxième raison qui se trouve en fait dans la suite, au verset 16, dans l'explication qu'il donne. « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » On a dit ce que cette Pâque célébrait. En la mangeant, c'était un rappel du passé, de ce qui s'était passé pour cette première Pâque, cette libération de l'esclavage en Égypte, cette rédemption. Mais ici, Jésus nous projette vers l'avenir. En la mangeant, les participants devaient à la fois regarder les disciples ici et nous aussi, regarder en arrière et en avant. Il dit ici qu'il ne la mangera plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça vaut la peine de prendre un peu de recul et de considérer qu'il y a ici une nouvelle page de l'histoire qui est sur le point de se tourner. Comme c'était le cas au moment de la sortie d'Égypte, il y a une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre ici. Comme un agneau, c'est Jésus qui va être sacrifié pour que la vie d'individus soit préservée. Comme une rédemption, tout est focalisé sur lui, parce que c'est lui qui va permettre la libération de l'esclavage de nos péchés. Comme la promesse d'une nouvelle terre, d'un pays promis, nous avons, si nous avons foi en Jésus, la promesse de la vie éternelle, d'une nouvelle terre. Ce repas, il nous lie à Jésus, et il nous lie au passé et à l'avenir. C'est intéressant de constater qu'à chaque fois, il est question d'un repas. C'était déjà un repas au moment de la première Pâque. Mais quand il parle au verset 30 de l'avenir, de l'accomplissement de ce royaume, il parle aussi en termes de repas. « Ainsi vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. » Ce repas que nous allons prendre dans le présent, c'est l'occasion de regarder en arrière à ce qu'il était sur le point de vivre, ce qu'il a vécu à la croix. Mais c'est aussi l'occasion de regarder à l'avenir. Et dans les moments clés de notre rédemption, on doit voir ce qui est essentiel dans le passé, la mort à la croix de Jésus, sa résurrection, et dans l'avenir, sa manifestation, la manifestation de sa gloire. Et les deux se retrouvent dans le présent, alors qu'on prend un repas qui rappelle ce premier repas que Jésus a pris avec ses disciples et qui rappelle ce repas que nous allons prendre avec lui. Jésus a donc hâte que cette nouvelle page de l'histoire, elle soit tournée. Il s'en réjouit, même si quelques heures plus tard, il va être profondément troublé dans le jardin de Gethsémané. Ce n'est pas quelqu'un qui est insensible, froid face à la souffrance qu'il doit vivre. C'est une angoisse qu'il va vivre. Mais ici, il a de la joie, alors que ce repas symbolise l'accomplissement de ses promesses. Quand on prend ce repas, parfois on peut le prendre avec une certaine tristesse, justement parce qu'on est focalisé sur les circonstances de sa mort, sa solitude à la croix, son abandon. Et c'est vrai qu'il y a une tristesse légitime, un souvenir qui peut nous rappeler cette peine qu'il a vécue. Mais il y a en même temps, et il nous le dit ici, il y a une joie qui est légitime lorsqu'on se projette vers l'avenir et on sait que pour lui, c'était une joie d'anticiper cet accomplissement, l'accomplissement de ses promesses dans son royaume. Le pain et le vin qu'il nous donne doivent rappeler qu'il s'est donné pour notre subsistance et notre subsistance éternelle. La coupe, c'est le symbole de cette alliance en son sang, répandue pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. Pour prendre ce repas et comprendre l'importance de ce repas, il faut aussi pour nous comprendre qui était là pour le prendre. Il y a Judas le traître qui était là, qui avait déjà engagé ce complot. Difficile de dire exactement ce qui se passe dans sa tête, mais on peut noter un certain endurcissement. Il peut parler de celui qui va le trahir. Judas se sait concerné, mais il ne dit rien, il s'endurcit. Il ira jusqu'au bout. Et là encore, ça n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais Judas n'est pas le seul à avoir quelque chose à se reprocher ce soir-là. Pierre, qui prend ce repas, va dire quelques instants plus tard qu'il est prêt à mourir pour protéger Jésus. Mais les faits montrent qu'il va le renier 3 fois. Et les disciples eux-mêmes, ils ont aussi des choses à se reprocher. Quel va être le sujet de conversation quelques instants plus tard? Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand parmi nous? Jésus devra leur rappeler qu'il est venu pour servir et qu'eux devraient servir aussi. Mais la question qu'il se pose, c'est qui est le plus grand? Nous aussi, en prenant ce repas, on a besoin de réaliser qui nous sommes, qui nous avons tendance à être. Ce repas, il nous parle de substitution, de quelqu'un qui prend notre place. Mais la substitution, elle est tout à fait appropriée pour parler aussi de notre problème, du problème de chacun des disciples autour de cette table ce soir-là. Un théologien, John Stott, l'a exprimé de cette façon. On pourrait dire que le concept de substitution est au cœur à la fois du péché et du salut. En effet, dans son essence, le péché caractérise l'homme qui se substitue à Dieu, tandis que le salut s'opère quand Dieu se substitue à l'homme. L'homme revendique des droits qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dieu accepte des sanctions que seul l'homme mérite. Le problème fondamental chez chacun d'entre nous et qui est déjà perceptible chez les disciples ce soir-là, c'est qu'on a tendance à se placer au centre. On a tendance à estimer que le monde gravite autour de nous. Que c'est à nous de déterminer pour nous-mêmes le bien, le mal. Comme Adam et Ève qui veulent prendre cette place, cette prérogative de choisir pour eux-mêmes le bien et le mal, se prendre pour Dieu, on a chacun tendance à vouloir être au centre et choisir pour nous-mêmes le bien et le mal. Mais la solution que Dieu offre, c'est exactement l'inverse. C'est Jésus, lui-même Dieu, qui se substitue à nous en prenant la mort que nous méritions. Et c'est pourquoi il doit y avoir de l'émerveillement en prenant ce repas. On a parlé de souveraineté dans les circonstances où Jésus a pris ce premier repas. Mais il y a aussi une substitution qu'il nous faut comprendre par ces éléments qui rappellent la personne de Jésus. On a tendance à vouloir se substituer à Dieu en décidant pour nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, en étant prêt à choisir le mal plutôt que le bien. Se prenant pour Dieu, eh bien lui s'est substitué à nous, en prenant injustement la mort que nous méritions. Alors, nous allons prendre ce repas dans quelques instants et je vous invite tout simplement à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces instants que nous allons passer et où nous voulons nous souvenir de ce que Jésus a vécu. Accorde-nous, Seigneur, de vivre du don de sa vie et de nous émerveiller de ce qu'il s'est substitué à nous, à la croix, en son nom. Amen.